Ciné Plus, Béatrice Malige.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Mais vous aimez le cinéma et ça tombe bien, justement, je suis là, je vais vous parler de cinéma. Alors, évidemment, tout à l'heure, vous avez entendu tout un tas de films avec Arnaud de l'Utopia qui sont encore en salle, bien évidemment. Et comme il va y avoir un festival qui pointe l'oreille et qui va permettre de voir un certain nombre de films, eh bien, j'ai décidé, dans mon Ciné Plus, de vous parler de ce festival. C'est le 21e Festival Chrétien du Cinéma. Et ça a lieu du 20 au 27 janvier. Alors, je me suis un peu penché sur ce festival pour voir un peu quels étaient les films qui allaient passer. Il semblerait que le thème qui ait été choisi soit enquête de sens. Oui, pourquoi pas, enquête, quête et tutti quanti. Je ne suis pas sûr que tous les films qui aient été choisis répondent à ce critère, mais en revanche, il y en a certains. Et de toutes les façons, peu importe, moi je veux vous parler quand même de certains films qui sont programmés et qui valent le détour, notamment avec des grands classiques, même si vous n'aimez pas le cinéma, il faut absolument pour votre culture personnelle, générale, universelle, vous alliez voir Le Septième Sceau de Bergman. C'est un film de 1957 et il passera le jeudi 25 à 17h. Voilà. Alors, pourquoi il faut aller voir Le Septième Sceau de Bergman 1957? Eh bien, tout d'abord, parce que Bergman, c'est pas n'importe qui, c'est un réalisateur, ça vous le savez, suédois. Alors c'est intéressant parce que j'avais lu il y a fort longtemps une rencontre entre Olivier Assayas et Bergman, et Bergman se représentait comme un illusionniste, et notamment ils abordaient le thème de l'artiste, et Bergman disait qu'au fond un artiste est un magicien, c'est un escroc qui est rongé par le doute. Je trouve ça assez amusant, et cependant c'est vrai, la magie a lieu, voilà, même si c'est de l'escroquerie, on est piégé, complètement embarqué. C'est formidable. Alors, le Septième Sceau, eh bien, on va dire que c'est un film, d'abord, qui se passe au Moyen-Âge, en Suède, mais on sent bien que l'Allemagne n'est pas loin. On est quand même en 1957, on est encore un peu traumatisé par les guerres, la guerre qu'il y a eu juste avant, bien évidemment. Alors, c'est un film qui se passe au Moyen-Âge. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que le Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge mythique et symbolique, et notamment avec le thème de la croisade. En deux mots, si vous voulez, parce que de toute façon, vous le savez, je raconte jamais les films, c'est un chevalier et son écuyer qui reviennent des croisades et qui rencontrent la mort. Et la mort, évidemment, pour l'emporter. Et le chevalier demande un délai. Et à ce moment-là, vous avez le joueur d'échecs, la mort, lui propose de jouer aux échecs. Donc, évidemment, c'est un thème tout à fait intéressant. Parce que dans ce jeu d'échecs, il y a un désir de domination. Qui va dominer ? Le vivant ou la mort ? Voilà. Donc, c'est un film évidemment passionnant. Vous avez aussi les flagellants. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça rappelle aussi la peste qui avait eu lieu en 1349 en Scandinavie. Les flagellants, c'était une procession de gens qui se baladaient et qui se flagellaient tout au long du parcours pour se punir au fond de tous les drames qu'ils avaient eu peur. Et en même temps, il y avait aussi une grande tradition des danses macabres où on n'avait pas peur de la mort. C'était depuis le XIVe siècle, évidemment. Et quant aux échecs, cette partie d'échecs qui va se jouer entre le chevalier et la mort, c'est intéressant parce que chez l'homme médiéval, les jeunes nobles apprenaient tous à penser en termes militaires, philosophiques, et c'est avec des réalités cachées. Et je pense que les joueurs d'échecs sont quand même très intéressants, et même il faut s'en méfier un peu. Vous en avez un qui est un grand joueur d'échecs, et ça se voit dans sa stratégie politique, c'est tout simplement Poutine, vous voyez. Donc c'est intéressant de voir comment on joue aux échecs. Alors la mort, elle est d'autant plus intéressante qu'elle est extrêmement théâtral, et c'est un film qui démarre comme au théâtre avec un coup de cymbale qui annonce le titre, puis il y a un silence et qui précède la venue de quelque chose. On est donc presque en apnée, et il arrive quoi ? Une musique extraordinaire, c'est Diacyré, c'est la musique qui fait dramaturgie comme à l'opéra, et puis tout d'un coup il y a un halo lumineux, très à gauche, comme un fondu à gauche, halo à droite, comme une espèce de vision comme ça qui apparaît de gauche à droite, et puis le troisième plan c'est une opacité du terrestre, par rapport à la luminosité de la lumière et avec le mouvement de la mer. Alors évidemment, la symbolique de la mer qui vient, revient, disparaît. Bon, voilà, évidemment, c'est donc la victoire dans ce film, apparemment. La victoire des ténèbres et on entre dans un monde nouveau où le ciel et la terre seraient en harmonie. Donc vous l'avez compris, c'est quand même un film où il y a une métaphysique très forte, mais qui est filmé avec un éblouissement artistique absolument extraordinaire. Et alors, dans le quatrième plan, à ce moment-là, c'est le ciel qui est illuminé et on n'a plus que la terre et la mer. Donc on est dans les éléments de la cosmogonie, évidemment, quand apparaît le chevalier et avec un bruit réaliste de la mer. Jusqu'à présent, on avait quelque chose, c'était le Diacyré qui prenait le pouvoir et là, tout d'un coup, la mer revient, c'est-à-dire que comme si, tout d'un coup, les sens étaient en éveil. Et avec cette partie d'échecs. Échecs, d'ailleurs, avec le jeu d'échecs est éclairé, avec d'une façon, on sent une signification très occulte. Et puis, à côté de ça, il y a un rocher. Donc, on est dans la terre, évidemment. Et donc, le rocher semble un élément naturel, simplement. Mais ça veut dire que tout d'un coup, le minéral serait privilégié. L'homme serait donc terrestre, un peu, parce qu'il s'appuie sur ce rocher. Et puis, bon, voilà, donc je ne vais pas insister là-dessus, puisque je crois qu'il y aura une analyse qui sera faite, mais c'est vrai que c'est un thème, le septième sceau de Ingmar Bergman, c'est comme un poème ésotérique. C'est l'apocalypse de Saint Jean, c'est le ciel, la mer, la terre qui se confrontent à la lumière, la mort et le vivant, l'homme s'oppose au divin, c'est l'apocalypse. Et c'est une pensée très, très occidentale, ça. Victoire sur la mort, c'est quand même une préoccupation majeure. Hein. Voilà, donc cette idée de jeu, de vie. D'ailleurs, c'est un film qui repose sur le trio. Un trio avec, vous avez donc le chevalier, l'écuyer et la mort. Et en même temps, qui vont d'ailleurs se répondre à un trio de comédiens qui, eux, sont heureux d'exister, d'être. Voilà, tandis que le chevalier, la mort, l'écuyer, c'est un trio beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, mais en même temps, j'ai envie de dire que ça rejoint tous les mythes de Hamlet, de Don Juan, de Don Quichotte, de Faust, et puis c'est aussi Ulysse qui retrouve Pénélope. Hein. Donc voilà, c'est une croyance à l'absolu de la connaissance. Voilà, et j'ai envie de dire que l'écuyer, c'est un peu comme Sancho Panza avec Don Quichotte. Hein. Il rejette d'ailleurs l'idéalisme abstrait de son maître. Et quant à la mort, évidemment, là, j'ai envie de dire que c'est une réalité de fiction. C'est-à-dire que c'est un visage très enfariné, comme une apparition. Voilà. Et puis en plus de ça, il y a tout. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est un film, très honnêtement, il faut absolument voir ce film. Voilà, après, vous comprendrez ce que vous comprendrez, ça n'est pas le problème, mais je pense que c'est quand même un film qui fait partie des sommets du cinéma. Bien, eh bien écoutez, Stéphane, c'est peut-être le moment d'écouter la bande-annonce, peut-être, parce que vous allez voir, il parle suédois, mais je pense quand même, avec ce que je vous ai dit, vous allez sentir la teneur de l'image que vous ne verrez pas, parce qu'il y a un chant contre chant, avec une puissance dans le cadrage. Ah, je suis sûr que même avec le son, vous allez l'entendre et la voir. Allons-y.
Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått vid din sida.
Det vet jag.
Är du beredd?
Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Du spelar ju schack, inte sant?
Hur vet du det?
Ja, jag har sett det på målningar och hört i visorna.
Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare.
Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
Varför vill du spela schack med mig?
Det är min sak.
Det har du rätt i.
Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Du fick svart.
Det passar ju bäst så. Inte sant?
Voilà, vous venez donc d'entendre la bande-annonce du film Le Septième Sceau de Ingmar Bergman, un film de 1957 et qui sera projeté donc dans le cadre du 21e Festival chrétien du cinéma le jeudi 25 janvier. Ça me rappelle un film, à 17h. Bien. Alors, il y a un autre deuxième film quand j'ai vu la programmation sur laquelle je voudrais vous dire un mot. Je voudrais vous dire un mot, parce que je crois que c'est un film là aussi à voir, qui est excellent, qui est passé, je dirais pas inaperçu, mais à mon avis, un peu trop vite, parce que c'est un excellent film de Arnaud Desplechin, un film de 2013, Jimmy P. C'est-à-dire la psychothérapie d'un Indien des plaines, et ça vient du journal du docteur Georges Devereux. Je pense que c'est une histoire vraie. Ça va plaire, parce qu'en général, ah oui, les gens viennent, ah ben ouais, c'est une histoire vraie, alors que moi, vous savez que je prêche pour l'imaginaire, mais là, en l'occurrence, ça me paraît tout à fait intéressant. C'est un film qui se situe en 1948. Donc, je répète que c'est Jimmy P., c'est un film de Arnaud Desplechin, un film de 2013, et qui passera le 22 à 17h, en revanche, je ne sais pas où. J'ai pas le lieu. Je pense que c'est au Corum, mais c'est assez mal foutu. J'ai pas compris où ça se passait. Mais enfin, si vous téléphonez au festival, vous regardez sur Internet, Festival Chrétien, à Montpellier, vous devriez trouver la salle, je pense. En tout cas, ils l'auront mise, peut-être. Donc, c'est un film Jimmy P. Je vais vous en parler parce que j'ai beaucoup aimé ce film. C'est donc une histoire. On est en 1948. C'est une histoire très étrange, profondément humaine, qui montre que l'écoute de l'autre, la parole, amène à une double recherche identitaire. Parce que le fait pour Georges Devereux, qui est donc à la fois un psy et un anthropologue, il va sauver Jimmy, ça le sauve aussi, et leur rencontre va rester un temps fort pour chacun d'eux dans leur vie à venir. Et cet échange est filmé avec beaucoup d'élégance par Desplechin. Il y a de longs plans séquences, avec des travelling lents, à peine imperceptibles d'ailleurs, et qui se posent dans des silences. Et dans un univers très différent, Jimmy l'Indien, le blessé de la guerre, qui est très silencieux, il est invalide, et en même temps on peut dire qu'il est en bonne santé. Eh bien, il y a une opposition avec Georges Devereux, qui est lui exilé, et qui apparaît pour la première fois dans le film sur une musique boogie extrêmement dynamique et à qui un confrère va lui demander d'être moins exubérant. Donc vous voyez, exubérance calmée dans le huis clos devant cet Indien qui est extrêmement calme, monolithique, qui porte en lui des blessures qui le minent. Voilà, donc déjà vous avez ces deux personnages qui sont extrêmement différents. Donc c'est donc un film qui, c'est pas mal non plus aussi de le noter, qui mine de rien a l'air de nous dire que la folie au fond n'existe pas. Alors bon, s'il y a un psy dans la salle, ou alors nous sommes tous un peu fous. Tant mieux, remarquez, hein, qu'est-ce qu'on peut s'emmerder avec des gens, avec les saintes hein, ou les saints. Voilà, donc je pense que c'est intéressant aussi d'avoir un peu un brin de folie. Et c'est un film, et ça devient de plus en plus rare. Enfin, nous étions en 2013, peut-être qu'en 2017 ou 2018, on n'en parle plus, qui ose parler d'âme. Moi, je suis quand même très sidéré, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. L'autre jour, il y avait... comment est-ce qu'il s'appelait, un journaliste sur Europe numéro 1, qui était invité sur France Inter et qui parlait comme ça, à un moment, on parlait d'âme, il a dit, mais qui parle d'âme, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Ah bon? Oui. Et donc la journaliste était un peu sidérée de France Inter, a dit, bah si, nous on en parle, voilà, Frédéric Taddeï, il parle pas d'âme, il sait même plus ce que ça veut dire. Bon, écoutez, donc malheureusement il y représente quand même une bonne proportion de Français, voilà. Donc, pour revenir à ce film, Jimmy P. de Arnaud Desplechin, je pense que Desplechin, il ose dans l'écriture cinématographique nous montrer le mal avec une tête de Jimmy, par une pluie, dans une tache de lumière. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelque chose de très poétique dans son image, avec, là encore, ça renvoie le bien et le mal. Et en même temps, il faut savoir aussi qu'on joue sur le prénom Jimmy. Il semblerait que la traduction en indien, ça voudrait dire « tout le monde parle de lui ». Ben, en effet, c'est vrai que tout le monde va parler de lui, et notamment, vous voyez, jusqu'en 2013, parce que la plupart du temps, les Indiens ont des noms qui illustrent le destin à venir. Desplechin, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de pathos. Il filme les rapports entre le docteur et son patient avec un certain recul, avec des plans généraux, assez large, puis petit à petit, on va se rapprocher parce que les deux êtres vont se rapprocher. Voilà, donc c'est un film qui oscille entre le jour et la nuit, mais les jours dans l'espace des entretiens est sombre. Et c'est dans cette obscurité que la lumière se fait, mais dans l'esprit des deux. Donc c'est un film très fin, très passionnant, très intelligent, et que je vous recommande, bien évidemment. Alors, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour vous parler de ce film en profondeur. Je me permets juste de vous donner quelques conseils, enfin, pour vous pousser à aller voir ce film. Je crois vraiment que ce film vaut le détour. Donc voilà, c'était donc Jimmy P de Arnaud Desplechin. Eh bien écoutez, moi je vous propose, maintenant que vous en savez plus, pas vraiment, parce que vous savez, moi je raconte jamais des histoires. Pour moi un film, enfin vous le savez maintenant, ceux qui me connaissent un peu, le scénario est la base, mais le scénario il est surtout fait exprès pour faire un film, c'est-à-dire des images et des sons. Donc ce qui est intéressant, c'est les images et les sons qui parlent, c'est pas l'histoire. Donc on s'écoute quand même la bande-annonce de Jimmy P de Arnaud Desplechin, donc un film qui sera projeté dans le festival de Chrétiens du cinéma le 22 à 17h.
Next please. Name please.
James Picard. Where were you injured?
In France.
No, I meant where on your body?
He fractured his skull in the war.
When it happens, does everything go black?
It's flecks of light.
The guy says he doesn't know if he's awake or dreaming.
Do we mean schizophrenia?
If they open my brain, it'll kill me.
George Devereux speaking.
Welcome to the Wild West!
Yeah. I lived with the Mojave for 2 years,
and I'd like to find out a few things about you. What is your Indian name?
Och Kanidei Puyo.
May I ask you what it means?
Everybody talks about him.
How long will you stay here? A month?
Hell, maybe I'm just blank crazy.
Come on, just say anything that goes through your mind.
Not to offend you, but whites do not like us much.
That doesn't offend me at all.
What on earth are they talking about?
I have no idea.
Could you close your eyes? Tell me the first thing you visualize.
This is all you need?
You'd never make such a fuss about the white man. This is gross misconduct.
The Blackfoot believed that dreams foretold the future. We think that dreams shed a little light on the past.
Why you try to cut us down? If a man keeps on taking these things, as time goes on, they pile up. And one day it gets to be too much.
Donc vous venez d'entendre la bande-annonce du film Jimmy P de Desplechin. Évidemment, je pense que ceux qui le connaissent l'ont reconnu. Vous avez entendu la voix de Mathieu Amalric, qui évidemment est toujours formidable dans tous les films qu'il fait. Ouais, c'est vraiment un des meilleurs comédiens de notre génération française. Voilà donc deux films que vous devez aller voir, je crois. Et puis, bon, il y a d'autres films, évidemment, qui sont programmés. Notamment, vous avez Rouge de Kieslowski, qui est pas mal. Mais enfin, je trouve ça intéressant de voir les trois, bleu, blanc, rouge. Hein. Vous avez aussi un film de Woody Allen. Vous avez Alice dans les villes de Wim Wenders, qui est aussi un excellent film. Wim Wenders, ça, c'est des réalisateurs incontournables. Et puis, il y a quelques... notamment, il y a un film de Trapero. Alors ça, j'aime beaucoup Trapero. Hein, donc, c'est un film argentin. Mais j'ai eu l'occasion d'en parler ici. En revanche, le film qui est programmé, je ne le connais pas, donc je ne sais pas parler des films que je n'ai pas vus. Vous avez aussi Bolen, qui est un Espagnol. C'est bien aussi ce qu'il fait. Notamment, j'avais vu Même la pluie, et ça, c'est un film dont dont je me souviens encore. Et puis, vous avez aussi Whiplash, de... ouais, qui est pas mal. C'est, ça, je pense que c'est pour les jeunes. Mais enfin, non, non, pas uniquement. Hein, parce que moi, je suis quand même, je commence à avoir quelques heures de vol. Ça m'a plu aussi, vous voyez. Donc, voilà, c'est pour tous les gens. Enfin, disons, on va dire tous les jeunes de 7 à 90 ans. Voilà. Alors, le troisième film sur lequel je voudrais m'arrêter un petit peu, parce que je pense que ça devrait vous plaire, puis c'est dans l'air du temps, et puis en plus de ça, c'est un excellent réalisateur, c'est Le Havre de Aki Kaurismäki. Le Havre de Aki Kaurismäki, vous devriez pouvoir le voir le 25 à 20h15. Donc le 25, vous voyez, vous commencez à 17h avec le 7e saut, et vous continuez à Le Havre, avec Le Havre, après avoir mangé une pizza. Bien, alors Le Havre de Aki Kaurismäki, et bah écoutez, décidément, Kaurismäki, on le sait, c'est un grand. Son humour est à la mesure des Tati, des Chaplin, des Buster Keaton. Il dit des choses par ses cadrages, ses dialogues, son montage, beaucoup plus fortes, et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est du vrai cinéma, beaucoup plus que par un discours. Il dit la réalité en jouant le décalage qui rend le film élégant, comme les personnages. Je pense toujours, quand je vois Hemingway, Kaurismäki, à une phrase de Hemingway, le courage, c'est l'élégance devant l'infortune. Voilà, ça, c'est magnifique. Si on pouvait comprendre cette phrase et la mettre en exergue partout, le courage, c'est l'élégance devant l'infortune. C'est déjà énorme. Et donc, le film, Le Havre, de Aki Kaurismäki, il a une couleur, celle que Kaurismäki, d'ailleurs, affectionne, une espèce de bleu glacé, qui apporte de la douceur au monde de brut qu'il est en train de décrire. Et il joue le happy end qui nous dérange moins que dans des films de Guédiguian, hein, je reconnais. Quoique La Villa, j'ai beaucoup aimé, alors je voudrais pas dire du mal de Guédiguian, mais quelquefois, il jouait, on était un peu dans un monde de bisounours. Mais ce que j'aime dans Le Havre de Aki Kaurismäki, c'est qu'il parle, il part d'une situation réaliste, vraie, mais il entre dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il joue l'irréalité du réel, et c'est une gageure. Et donc, la première image est d'une drôlerie incroyable. Il y a deux cireurs qui sont plantés droit dans leurs bottes, l'œil fixé vers le bas, et contre-champ, c'est des pieds, et on entend une voix off qui dit « Nous sommes à la gare ». Et le contraste entre la turbulence des passagers, des gens qui marchent, des trains qui partent et qui arrivent, et eux, imperturbables, qui attendent au garde-à-vous. Et le montage avec l'homme au col en astrakhan est remarquable de précision. Il y a un gros plan de valise, un homme à lunettes noires, un autre homme à chapeau, et puis une voix off, une voix qui appelle un taxi. L'homme au col d'astrakhan sort du champ et off, bruit d'accident. Et humour décalé, on dit il a payé. C'est à la fois cruel et inattendu. Et les formules dans les dialogues sont d'une grande distinction. L'argent circule au crépuscule. Et le personnage principal, qui est le comédien André Vigne, il est parfait parce qu'il est réservé, élégant. Et arrive aussi un personnage formidable, c'est Darousse, qui est de mieux en mieux. Il est comme une bouteille de vin, il se bonifie en vieillissant, il est formidable parce que dans ce film, il est un mélange d'humanité et de dangerosité dans un manteau noir et un chapeau noir. Au fond, un homme qui aime le bon vin ne peut pas être mauvais, et c'est son cas évidemment. Et donc, la femme, on dirait un peu Arletty, elle est dans tous les films de Kaurismäki, elle est un peu la Fiona Gordon, la partenaire de Dominique Abel, le couple de Belges dont je vous ai parlé si souvent, et c'est Kati Utinen qui est formidable, elle est poétique à souhait. Enfin bref, vous l'avez compris, je ne peux pas vous en parler davantage, mais vraiment c'est un film qui met en lumière des gens sympathiques, tous sont sympathiques, et puis c'est un peu compliqué, et l'idée même d'ailleurs de Cyril et Godasse, ça c'est formidable, je ne me baisserai pas Cyril et Godasse, ben oui, on est tous, voilà, et puis tout est formidable, donc c'est un film, vous l'avez compris, excellent. Intelligent, profondément humain, qui manie l'humour, la tendresse, la cruauté, la ténacité, l'espoir, la générosité, enfin voilà. Et tout ça avec un style qui n'appartient qu'à lui. J'ai cité évidemment Aki Kaurismäki. Il est à la tête d'une vraie œuvre et c'est un vrai plaisir. Donc voilà au moins trois films, trois raisons d'aller voir au moins dans ce festival ces trois films que je vous recommande très vivement. Eh bien, je crois que nous arrivons... peut-être qu'on pourrait entendre la bande-annonce, Stéphane, c'est possible? Eh bien, allons-y. On va écouter la bande-annonce du Havre de Aki Kaurismäki, un film de 1000... Déjà, c'est fou, non? 1900... Non, c'est 2011, je dis des âneries. 2011, parce que je me disais, il n'y a pas si longtemps quand même. Allez, allons-y.
« c'est là où tu veux aller.
C'est de l'autre côté. Ici, c'est le Havre.
Il faut toujours que tu gaspilles dès que je m'absente un instant.
Oh, je les ai eus pour presque rien, ils étaient en solde. Moi, le soir, je prends un verre. Ça fait ressortir les meilleures parties de l'homme. Ça aurait pu être une carte de métro, monseigneur.
Il n'y a pas de métro au Havre, au papier. Nous cherchons un petit garçon noir. On l'a vu dans les environs.
Pourrais-tu cacher le garçon chez toi en cas de besoin ?
Évidemment.
Quelqu'un de chez lui ? La famille ?
Personne, seulement son chien. Love the sea, and you will always be.
A matelot. Madame, essayez de voir vite. Je crois que Monsieur Marcel ne se dévoile pas sans vous.
Je le crois aussi.
Voilà, vous venez d'entendre donc la bande-annonce du film Le Havre de Aki Korismaki, que je vous recommande. Et vous avez reconnu les voix de Daroussin, enfin des personnages que je vous ai cités. Ben voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, moi, j'ai préféré mettre la lumière un peu sur ces trois films. Enfin, il y a d'autres films qui sont certainement à voir aussi. Et donc, ben écoutez, je crois que cette émission est rediffusée le même jour, autour de 21h. Eh bien, nous, on se retrouve... on se retrouve pas mercredi prochain, parce que c'est Sine Qua Non qui est là, et donc nous nous retrouvons plutôt dans 15 jours. Donc à bientôt.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.